France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Hergé l'a cherché longtemps et ne l'a pas trouvé dans un premier temps. Tintin, lui, a cherché Chang au Tibet et l'a trouvé, comme on sait. Et puis, les deux personnages de papier donc se sont retrouvés, hélas, pour le Yeti. Et se sont retrouvés également les deux êtres humains. Amitié indestructible après une séparation de 40 ans. Première diffusion sur France Culture le 22 mars 1986.
Les deux bouts de la Terre se rencontrent aujourd'hui à Zaventem. Il était 10h et quelques et Chang est arrivé.
Jean-Pierre, vous étiez à l'aéroport, à Bruxelles Nationale, au moment de l'arrivée, celle tant attendue.
Tout de suite au débarquement de Chang, nous avions demandé ses impressions à Hergé. Est-ce qu'il était ému,
Jean? Oui, bien entendu. Bien sûr, après 45 ans, on va y retrouver quelqu'un qui a joué un tel rôle dans ma vie.
On le retrouve d'ailleurs pas seulement dans Tintin au Tibet ou dans Tintin et le Lotus Bleu. On retrouve des allusions ici et là dans vos albums.
Oui, par-ci, par-là, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, au fond, il m'a ouvert les portes de l'extrême-orient, voilà, hein, de la philosophie orientale.
À quoi avez-vous pensé quand on vous a dit que Chang allait revenir?
Mais écoutez, j'attendais ça depuis longtemps. J'avais moi-même demandé mon visa, que je n'ai pas jusqu'à présent obtenu. Mais enfin, je croyais moi-même y aller là-bas, puisque j'avais retrouvé son adresse. Et puis, entre-temps, Gérard Vallée a eu l'idée de demander qu'il vienne. Ça a pris un certain temps, mais enfin, ça s'est fait. Et donc, voilà, je suis prévenu.
Mon copain de Pékin, rencontré sur mon chemin, dans une rue pleine de poussière, tout au bout de la terre. Il ne m'a rien dit, simplement il m'a souri. Et l'on est devenu copain dans les rues de Pékin. Il était vêtu d'un costume en toile bleue qu'il promenait dans la rue d'un air bien heureux. Mon copain de Pékin, il n'en saura jamais rien. En suivant son pas tranquille, j'ai connu sa ville.
Nous avons séparé une demi-siècle. Eh bien, Monsieur Hergé ne m'a pas trouvé. Même il a, d'après son pensée, a écrit « Tintin m'a cherché à Tibet ». Et bien, il m'a trouvé à Tibet. Après, il a trouvé mon adresse. Il a voulu que je vienne et qu'il vienne en Chine. Pas réalisé. Et maintenant, je peux la retrouver. Je suis très très content. Mais comme nous deux, les cœurs très sentimentaux, je ne voudrais pas que par cet plaisir, cette joie trop touchée et nuit la santé de Hergé, parce qu'il est en cas de reposer. Voilà tout ce que je veux dire.
Ma vie est une bande dessinée. Je pose mes mots sur tes lèvres. Je te fais raconter mes rêves. Où tout s'annule et tout peut s'inventer. Comme je déchire pour rire, j'efface, je casse.
Est-ce que vous avez lu le Tintin au Tibet?
Oui, j'ai lu, Hergé m'a envoyé. Et je l'ai montré à mes copains, à mes compatriotes, les artistes. Tout le monde apprécie.
Petite fille de Chine dans la pierre de taille, comme une poupée de magazine, made in Shanghai. T'as les yeux qui rient, même quand t'as le spleen. T'as des milliers de grains de riz sur tes racines. Quand tu rencontres quelqu'un qui parle ta langue, t'as le cœur serré. Tu vois les rues de Pékin où le yang c'est kian. No money. Chai d'amour, la nuit je rêve qu'on fait le chai d'amour. Tous mes délires défilent à contre-jour sur le paravent.
Bien entendu, entre le jeune garçon que j'ai connu et dont j'avais gardé le souvenir visuel par des photographies et l'homme que je retrouve maintenant, il y a un monde. Mais ça, moi aussi, c'est la même chose. Mais non, il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. On sent qu'il n'a pas changé. D'ailleurs, est-ce qu'on change jamais, vraiment, hein?
Mais très change. Dans le livre écrit par Hergé, Chang est un petit Chang, un enfant. Et maintenant, je retourne en Belgique, c'est un vieux. Mais petit Chang me suit, voilà, c'est mon fils. Dans le temps, c'est l'âge de mon temps.
Voilà, oui. C'est ça.
Toi, mon vieux copain, cette nuit je t'écris parce que je vais pas bien. Parce que je suis tout seul. Et que j'ai pas envie de me saouler la gueule. Je sais que si t'étais là, je pourrais m'appuyer sur toi comme autrefois. Mais y'a tant de kilomètres entre toi. Moi je suis fatigué de plus savoir quoi faire de mes mots d'amitié. C'est moche d'être si loin quand on a si souvent cuvé le même vin. On était gamins, depuis on a fait du chemin. Je m'en souviens comme si c'était demain.
S'il y avait un prix de l'amitié entre un dessinateur et un de ses personnages, on le décernerait sans aucun doute à Hergé et Chang Chong-jen, le petit chinois de Tintin dans le Lotus Bleu, le seul personnage de BD vivant qui séjourne en ce moment à Paris.
Ah, quel accoutrement! Tenez, je vous présente mon jeune ami Chang. Le pauvre garçon n'a plus personne au monde. Nous nous sommes rencontrés alors qu'il se noyait, depuis c'est à la vie et la mort. Hein, Chang?
C'est-à-dire que Tintin m'a sauvé la vie!
En 1934, bien avant la révolution culturelle, Chang étudiait les beaux-arts à Bruxelles. Hergé dessinait déjà au Petit 20e, un magazine illustré. Oh non, non, il ne se souciait pas beaucoup de véracité documentaire. Pour parler de la Chine, un abbé conseilla à Hergé de rencontrer Chang. Une amitié indestructible naquit illico qui transforma le travail d'Hergé. Bien sûr, il y eut la guerre sino-japonaise, Chang dut retourner en Chine et les deux amis restèrent séparés pendant 40 ans. C'est seulement en 1981 qu'ils se retrouvèrent. Aujourd'hui, directeur de l'Académie de peinture et de sculpture de Shanghai, Chang a 80 ans. Oh, mais il est aussi touchant à la ville que sur les bandes dessinées de son grand ami disparu.
Allons, Milou, à Shanghai, pousse-pousse. Hep, hep. Pouvez-vous me conduire chez Mitsui Rato, rue de la Tranquillité? Bien, allez, monte, Milou. Se croirait au temps des rois fainéants. Ce que ces pauvres tireurs de pousse-pousse sont maigres à courir comme ça toute la journée.
Pieds nus.
Pieds nus, oui. Hé, attention!
Imbécile! Sale chinois, va! Tu as osé bousculer un blanc!
Mais c'est vous qui traversez la rue en lisant votre journal et vous osez!
Mais qu'est-ce que... espèce de blanc-bec! Mais qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger un de ces sales chinois?
Vous n'êtes pas un gentleman, monsieur, et votre canne? Voilà ce que j'en fais!
Franluqué! Vous aurez de mes nouvelles! Foi de Jibans! Couche-couche!
J'ai demandé à Chang pourquoi il aimait Hergé.
parce qu'il est très sincère, il est très studieux. Il trouve, c'est vrai, il faut baser sur les événements. Il faut trouver un homme authentique. Alors il prend moi comme le rôle dans son livre. Tous ses livres sont inventés des rôles. Le seul rôle, Zhang, c'est le vrai Zhang.
Est-ce que dans Le Lotus Bleu, vous vous êtes reconnu?
Oui. Le Lotus Bleu a changé dans la mentalité européenne la forme d'un Chinois. Un jour, un téléphone de mon fils qui fait ses études en Belgique en disant que Tintin est mort. Alors, j'ai dû pleurer parce qu'un seul ami qui me connaît au fond est de même désir, même pensée sur l'art.
Je suis né noir et blanc dans un tout petit carré, tout en haut à gauche dans le coin d'une page. Puis pour faire plus gai, on m'a tout colorié, les cheveux boutons d'or et les yeux sans nuages. Comme je ne pouvais pas rester longtemps muet, on m'a mis des bulles pour dire des mots dedans. Ça faisait même pas deux heures que j'existais, on fêtait mes 17 ans.
La plupart des personnages ont été dessinés, créé vraiment de toutes pièces. Et ce n'est qu'au fur et à mesure que les années passaient que j'y ai incorporé des traits venant de l'un ou de l'autre, ami ou de personnes rencontrées, comme par exemple le capitaine Haddock, c'est en partie mon ami, le dessinateur Jacobs, hein, qui est aussi bourru, qui a de grands gestes larges, à qui il arrive parfois des petits malheurs. Hein. Quand j'ai commencé à dessiner Tintin, je n'étais pas marié, pas d'enfant, rien du tout, donc je ne pensais pas du tout que ça pouvait être un substitut, hein, je ne crois pas. Non, je crois que j'aimais raconter des histoires et je me souviens même que lorsque j'étais dans les petites classes, lorsque j'avais 7, 8 ans, 10 ans même, je me racontais des histoires à moi-même. C'est-à-dire que je dessinais des petits bonshommes au rez-de-chaussée de mes dessins, en dessous, dans mes cahiers. Et je racontais là des histoires, en images d'ailleurs, en images. Et c'était pour ne pas les oublier que je les dessinais. Comme ça, je fixais, si vous voulez, mon imagination. Et je me souviens même que ça se passait pendant la guerre de 14-18, et que je m'en souviens d'une, pas l'histoire, mais je sais que le thème était celui d'un petit adolescent, d'un jeune garçon, qui jouait des tours pendables à l'armée allemande. Voyez-vous ? Tout ça a disparu, je n'ai jamais songé à garder ça, bien entendu. Tintin, évidemment, est très différent de l'engin qui amène les astronautes actuellement sur la Lune. Hein. Bien entendu, le LEM, ce n'est pas du tout ça. Mais, il ne faut pas oublier que le professeur Tournesol, lui, dispose déjà pour sa fusée de l'énergie atomique. Hein. Oui, alors, il pourrait partir avec une fusée énorme et la ramener.
Pensais à des détails comme dans Jules Verne, on a critiqué certains détails, oui. Par exemple... si un obus sortait à une
Ah oui, place. Ça sûrement. Oui, je me suis trompé, vous savez, dans beaucoup de choses, et notamment lorsque la fusée s'en va, Tintin et ses compagnons, lorsque la fusée du professeur Tournesol s'en va, donc Tintin et ses compagnons sont plaqués sur leur couchette. Et ça va jusqu'à l'évanouissement, tellement la pression, le jet, la pesanteur, donc l'accélération est forte. Or, je me suis tout à fait trompé, les fusées actuelles partent très bien et les gens ne sont pas évanouis du tout.
La fusée approche du centre de Sprogi, frais.
freiné par le jet du moteur auxiliaire qui, heureusement, s'est mis en marche. Enfin, l'énorme jet de feu touche le sol de la Terre en soulevant un nuage de poussière et la fusée se pose, mais personne ne semble bouger à l'intérieur.
Pas de réponse. Apportez les scies électriques, vite!
Tous les services de sécurité, les services médicaux sont au pied de la fusée, prêts à intervenir. Enfin, nos amis sont évacués de la fusée, masques à oxygène, piqûres, etc. Et le miracle se produit.
Où suis-je?
Ah, vous êtes sains et saufs sur la Terre!
Sur la Terre? Et mes compagnons?
Le professeur et Louis Dupont sont hors de danger.
Et Milou? Mon chien. Allons voir le capitaine. Capitaine! Capitaine, réveillez-vous! Nous sommes arrivés!
Quoi? Je ne rêve pas? Oh. Hein? J'ai bien entendu quelqu'un parler de whisky.
Oh, mes amis, quelle aventure!
Tryphon, mon vieux Tryphon, dans mes bras, ma vieille branche! Ah, ben voici les Dupont! Du whisky? Hein? Allez, bah, mes amis, à la bonne nôtre!
Moi aussi, capitaine, je veux trinquer avec vous. Ce sera la première fois que je goûterai de ce breuvage. Mais ce n'est pas le jour à boire de la camomille. Nous avons vécu la plus prodigieuse aventure de tous les temps. La trace de nos pas est inscrite sur le sol de la Lune. Mais la laisserons-nous recouvrir à jamais par la poussière des siècles? Non.
Non.
Car un jour, nous retournerons sur la Lune.
Quoi? Quoi? Retourner sur la Lune? Alors moi, que je sois changé en cabestan, mille sabords, si je remets le pied dans votre cercueil volant. Espèce de zouave interplanétaire.
Jamais, capitaine.
Jamais, vous m'entendez? Jamais, jamais. De toute cette histoire, il n'y a qu'une chose à retenir. On est vraiment bien que sur notre bonne vieille Terre.
Et maintenant, beaucoup d'années après, enfin l'année passée, Tintin a été immortalisé. À Uccle est devenu une statue.
C'est ça, oui. Oui. C'est un sculpteur belge ici, Nappe-de-Jean, qui a fait cette statue. Elle est placée maintenant au parc du Wolvendal avec Milou. Et le Milou qui accompagne le Milou de cette statue, qui est en bronze noirci, je suis passé l'autre jour par là, et il a déjà les oreilles toutes luisantes, comme en laiton, en cuivre, donc, parce que les gosses le caressent.
Comment s'est passée l'inauguration?
C'est trop long, vous racontez ça. C'est trop long. Il y a eu surtout cette chose-ci, c'est qu'il y a eu plusieurs discours gentils, celui du bourgmestre Duc, celui du directeur du syndicat d'initiative de Bruxelles, celui du ministre même de la Culture, Henri-François Bonal à l'époque. Et puis on m'a demandé à moi de prendre la parole, ce que j'allais faire avec grand plaisir, ce que j'ai fait d'ailleurs avec grand plaisir, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors que le ciel était d'un bleu serein jusqu'à mon arrivée sur le petit podium qui m'était destiné, j'ai à peine prononcé une dizaine de mots que le ciel s'est couvert mais d'un noir d'encre. C'est un coup de tonnerre terrible, tout le monde a été arrosé, tout le monde s'est enfui dans toutes les directions.
Monde imaginaire que je comparerais, toutes choses inégales d'ailleurs, au monde de Balzac ou au monde de Zola. C'est-à-dire que de page en page, vous retrouvez des personnages, des lieux, des allusions. Tout cela vous donne le sentiment d'une existence intrinsèque, confirmée. Et c'est une sensation que j'aime beaucoup. Je connais notamment un professeur à l'université de Bruxelles qui est spécialiste en histoire de l'Allemagne. Il y a un philosophe des sciences en France. Voilà des gens extrêmement sérieux et qui sont des tintinologues très sérieux.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crack,
des,
bang,
des,
bang,
et des...
Zip, shibam, pow, blop, whew.
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait... Ça fait,
splash,
et ça fait,
stop,
ou bien,
bon,
ou parfois même.
C'était La mémoire en chantant de François-Régis Barbry, réalisation Marianne Manès, première diffusion sur France Culture, 22 mars 1986.